Bonjour, bonjour et bienvenue dans Questions politiques, le rendez-vous politique du dimanche de France Inter, de France Info à la télé en partenariat avec le journal Le Monde. En 1992, au sommet de la Terre à Rio, le président américain George Bush père prévenait Le Monde, le mode de vie des Américains n'est pas négociable. Près de 30 ans plus tard, après 6 rapports du GIEC et le jour où commence à Glasgow la 26e COP, personne n'oserait plus dire une telle chose. En tout cas, à la face du monde. Tous les scénarios sur la table, des optimistes aux plus pessimistes, tous nous disent en effet que notre mode de vie, négociable ou pas, il va changer. Et dans certaines parties du monde, il a déjà commencé à changer. Alors dans Questions politiques, où on invite habituellement des dirigeants nationaux, des grands partis politiques, on a eu envie cette semaine de changer les choses, de changer d'échelle, pour appréhender plus concrètement, à hauteur de citoyens, la question du réchauffement climatique. Trois maires sont avec nous jusqu'à 13h et en direct. Le maire d'une commune déjà très directement touchée par les effets du réchauffement climatique. Le maire d'une autre qui le sera, selon tous les experts, dans les prochaines années. Enfin, la maire d'une commune qui sera touchée à plus long terme, mais qui se prépare déjà à cette perspective. Les maires de Chamonix, de Dunkerque et de Poitiers, respectivement Éric Fournier, Patrice Vergritte et Léonore Monconduit, sont jusqu'à 13h les invités de Questions politiques.
Questions politiques. Thomas Négaroff sur France Inter.
On attend encore Éric Fournier, dont le train est en retard. On va parler de la SNCF dans un instant. Bonjour donc à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour poser des questions, je serai comme chaque semaine accompagné de la bande de questions politiques. Un peu renouvelée cette semaine, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions, un pilier de la bande.
Bonjour.
Le pilier, vous savez bien.
C'est positif, c'est un compliment. Cette semaine, Claire Gatinois du journal Le Monde qui remplace Françoise Fressoz. Bonjour Claire.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Et Karine Bécard de France Inter, autre pilier.
J'essaye. Salut tout le monde.
Salut Karine. Le hashtag Question Paul, comme chaque dimanche, pour vos questions et vos commentaires. Je le disais, Éric Fournier devait être avec nous dès maintenant. Son train a été annulé. Le deuxième est en retard. On parle beaucoup du train comme solution contre le réchauffement climatique. Vous, à Dunkerque, Patrice Vergritte, c'est pas évident le train.
Non, c'est pas évident. D'ailleurs, j'ai été obligé de venir en voiture aujourd'hui à votre émission, ce qui est dramatique. Juste un chiffre pour ça. En 15-20 ans, le temps de trajet Paris-Dunkerque a augmenté de 50%. On avait 1h28, on est maintenant à plus de 2h12. Et le nombre d'allers-retours dans la journée est passé à 6 alors qu'on était encore à une quinzaine. Donc vous voyez la réduction très très forte du service de la SNCF pour Dunkerque-Paris.
Ça a des conséquences dans votre ville ?
Dramatique, on peut plus par exemple accueillir de congrès, puisque le premier train direct venant de Paris nous permettrait simplement d'organiser des congrès à partir de 11h. Donc vous imaginez les conséquences dramatiques économiquement. Puis on est le troisième port de France, on a des conseils de surveillance, c'est important.
Et qui est-ce qui est responsable ? Excusez-moi. Ça vient d'où c'est de l'incurie, c'est de...
Un jour, la SNCF est venue me voir et m'a dit « Ben voilà, monsieur le maire, on va passer de 1h46, on était déjà 1h46 à 2h12, on va maintenant passer par Arras et plus simplement par Lille, et puis on va réduire vos nombres d'allers-retours avec Paris à 6. » J'ai essayé d'interpeller le gouvernement, j'ai essayé d'interpeller tout ce qui était possible d'interpeller. Le préfet a essayé même, à un moment donné, Michel Lalande, de s'interposer. Résultat, la SNCF a appliqué, et le Covid a même encore durci les choses derrière, puisque pendant la crise sanitaire, on a pu encore réduire l'offre SNCF sur Dunkerque.
Mais donc l'élu politique n'a finalement des moyens d'action très limités, voire là, en l'occurrence, pas de moyens d'action du tout.
Alors sur le Paris-Dunkerque, aucune action, et même les interpellations du gouvernement n'ont pas fonctionné.
Et Léonore Monconduit à Poitiers, ça se passe comment ?
Alors à Poitiers, nous avons la chance d'être très bien reliés aux deux capitales qui nous entourent, puisque nous sommes à 1h10-15 de Paris, l'équivalent de Bordeaux, ce qui ne doit pas masquer d'autres réalités qui sont des difficultés vis-à-vis du ferroviaire autour de Poitiers. Avec la LGV Paris-Bordeaux, et bien beaucoup de trains passent, mais ne s'arrêtent plus. Nous avons perdu un certain nombre de dessertes. Et puis en ce qui concerne les trains du quotidien, l'étoile ferroviaire autour de Poitiers, là encore, beaucoup de gares sont fermées, beaucoup de gares ont été désaffectées. Et c'est un vrai handicap aujourd'hui pour sortir de la voiture individuel.
C'est une réalité pour beaucoup de nos concitoyens, ces habitants de villes moyennes qui voient le TGV passer, ça s'appelle l'effet tunnel en géographie. Poitiers en est effectivement une des victimes, même si c'est pas le pire en France. On pourrait parler d'Amiens par exemple. Éric Fournier est arrivé.
Bonjour.
Bienvenue.
Vous ne regrettez pas d'être venu en train?
Ah non, non. Puis la SNCF fait vraiment tout ce qu'elle peut. Je pense qu'il faut lui donner des moyens. C'est pas elle qui est responsable.
Allez, je comptais commencer justement l'émission avec vous. Vous voilà, on commence avec vous. On va parler tous ensemble du constat chez vous, dans vos communes, du dérèglement climatique, donc vraiment à hauteur de territoire. Éric Fournier, je le disais, vous êtes le maire de Chamonix. Et pour commencer cette émission, j'aimerais vous faire entendre cette archive qui date du 15 août 1962. On est chez vous.
Du beau travail aussi, mais qui rappelle davantage le voyage de M. Perrichon. C'est l'excursion classique à la mer de glace. Le 15 août, profitant du beau soleil d'été, les touristes affamés de glissade se précipitent vers ces solitudes glacées mais accessibles. Chose étrange, le spectacle ne leur suffit pas. Il faut à ces mordus de la montagne le contact direct avec les difficultés du Grand Nord, les joies profondes de la banquise, la vérité des hautes cimes éternellement glacées.
Haute cime éternellement glacée. On était il y a 60 ans, le speaker des actualités françaises avec son ton inimitable et parlant du nez évoquait la mer de glace. Au début du XXe siècle, on craignait que la mer de glace ne vienne manger votre ville. Dans les années 60, on s'y promenait manifestement pour l'éternité. On est en 2021, c'est quoi la réalité aujourd'hui de la mer de glace chez vous?
C'est effectivement, comme tous les glaciers alpins et même tous les glaciers du monde, une fonte très très rapide et puis une projection qui va très vite puisqu'on nous annonce sur l'ensemble des grands massifs montagneux mondiaux, plus de neige et plus de permafrost jusqu'à 4300 mètres dans 60 ans. Donc on a un constat qui est très très alarmant et la montagne est un véritable témoin de l'aggravation et de l'accélération de ces phénomènes de changement climatique.
La montagne, mais aussi le littoral. Je me tourne vers le maire de Dunkerque. Je disais que ce n'était pas pour aujourd'hui, mais pour demain. Parmi les villes évoquées pour les conséquences du relèvement du niveau des océans, Dunkerque est très 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 mal placé et angoissé, j'imagine.
Oui, il y a plusieurs titres. Alors il y a effectivement d'abord la submersion marine, dans ce que vous suggériez. Mais il y a aussi une problématique particulière à Dunkerque, qui est un polder, c'est-à-dire une terre gagnée sur la mer. Et il y a la problématique des inondations qui viennent de l'intérieur. Puisqu'en fait, le changement climatique pourrait augmenter les précipitations, les concentrer en fait, ce qui rendrait difficile l'évacuation pendant la marée haute. Puisque un polder, en fait, se protège à marée haute et puis évacue à marée basse. Mais s'il y a beaucoup plus de précipitations au moment où c'est la marée haute, ça peut devenir très difficile de les évacuer. Donc on a aussi le risque des inondations.
Vous êtes pris en étau en fait, c'est ça qu'on comprend.
Exactement, on est pris entre la mer et les inondations terrestres qu'il faut savoir gérer. Ça fait 1000 ans qu'on sait le gérer. Ici, à Dunkerque, vraiment, regarde, demandez à la population, les inondations sont très très rares. Malheureusement, qu'est-ce qu'on va faire demain? Ça va être une vraie problématique.
Surélever la ville, ça c'est possible ou pas? Parce que il y a des villages au Bangladesh, par exemple, c'est des solutions qui sont en train de mettre en place.
Alors on a déjà évidemment pris des mesures. Déjà depuis 2017, on s'est doté de la compétence GEMAPI, hein, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. On l'a anticipé. On voulait pas laisser l'État gérer ça. On voulait le gérer nous-mêmes au niveau des collectivités. Donc on a réensablé, on a remis des oyas, on a protégé en fait le littoral. On a rehaussé effectivement le niveau de la digue avec un projet tout à fait particulier. Donc on a déjà anticipé ça et là actuellement on fait des études justement pour pouvoir évacuer les inondations venant de la terre, comment on va pouvoir gérer finalement la marée basse et évacuer davantage d'eau. En ce moment on le fait.
Et tout ça j'imagine a des conséquences économiques. À la fin, qui paie pour ces changements, pour ces évolutions qui sont nécessaires?
Alors, malheureusement, depuis la loi GEMAPI, c'est la victime, c'est-à-dire c'est effectivement le contribuable du littoral qui doit payer, alors qu'avant c'était une solidarité d'État. Depuis la loi GEMAPI, maintenant c'est la victime qui paye, et non celui qui est de l'ordre de la solidarité nationale, malheureusement.
Une autre question, comment réagissent vos administrés divers les uns les autres? Est-ce qu'ils vous rendent responsable ou est-ce qu'ils considèrent que vous faites tout ce que vous pouvez? Vous avez dit notamment, Léonore Monconduit, dans une interview à la Nouvelle République, que vous attendiez beaucoup de la COP26 et pas simplement du blabla. En clair, comment est-ce qu'est-ce qu'ils vous disent et qu'est-ce que vous pouvez porter comme voix?
Alors, l'expression « pas de blabla » est de Greta Thunberg, mais je vous remercie de
me l'attribuer. Je m'inspire très souvent de Greta Thunberg.
Ça ne m'avait pas sauté aux yeux.
Non, mais en effet, à la COP26, je porterai la parole non seulement des collectivités françaises, mais des collectivités internationales dans leur ensemble. Et ce qui, effectivement, nous avons une position particulière, puisque par rapport à tous ces changements, nous sommes en première ligne. Nous sommes en première ligne pour contribuer autant que possible à l'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire que c'est nous qui rénovons nos bâtiments publics, c'est nous qui engageons la transition des mobilités. Mais de plus en plus, nous sommes aussi en première ligne des questions d'adaptation et de gestion de crise. Lorsqu'on parle d'inondations dans les Cévennes, lorsqu'on parle de feux géants, lorsqu'on parle d'incendies sur le pourtour méditerranéen cet été, moi je pense avant tout aux maires, je pense à leurs équipes qui sont là,
justement,
qui doivent répondre.
Ils vous disent quoi, les administrés? Ils sont désespérés à vos côtés, ils vous mettent en question.
Ils vous en veulent.
Ils vous en veulent. Qu'est-ce que vous pouvez faire et comment ils parlent, chacun de vous?
Je pense qu'ils sont au contraire sur ces territoires qui sont plus sensibles, plus rapidement en phase avec la nécessité d'aller d'aller vite. Et il nous aide, il nous accompagne, il nous demande d'aller plus vite. Alors nous, les élus locaux, effectivement, et à tous les nouveaux territoriaux, mais également l'État. Nous, on se réunit effectivement dans le cadre de la COP 26 avec un réseau des grands gestionnaires de sites montagneux, ça s'appelle Sustainable Summits. C'est tous les grands sites mondiaux. Et effectivement, c'est la même chose, on est plutôt poussé. C'est-à-dire que ce côté laboratoire, malheureusement, doit nous conduire à aller plus vite. Et notre population, alors effectivement, il y a de temps en temps des choses qui coincent, mais en général, elle nous pousse à aller plus vite.
Léonore, mon conduit, une ville comme Poitiers, instinctivement, je me dis, c'est pas une ville qui est frappée par le dérèglement climatique. Je me trompe ?
Vous avez raison, c'est dans le sens où les changements climatiques nous frappent de manière moins visible que mes collègues. Néanmoins, le changement climatique est bien présent. Alors, nous faisons partie de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est la première côte de France, donc le recul du trait de côte, on connaît. Nous sommes une région fortement viticole. Les vendanges qui ont déjà pris 3 semaines de retard par rapport à d'habitude ces dernières années, c'est très sensible aussi pour les producteurs de notre territoire. Ce qui est le plus sensible sur le territoire de Poitiers, c'est la tension autour de la ressource en eau. On sait que le changement climatique va rendre la ressource en eau plus rare, ou en tout cas plus difficilement captable, et des tensions s'observent entre les usages qui sont liés aux usages de l'eau potable, aux usages liés au monde agricole, qui se concentrent notamment autour des projets des bassines, des grandes retenues d'eau, qui font l'objet de fortes tensions sur l'organisation du partage de l'eau dans ce contexte de carence de la ressource à venir.
France Inter. Question politique.
Alors on va un peu dézoomer, on reviendra évidemment dans les solutions concrètes dans vos villes, mais aujourd'hui effectivement s'ouvre la COP 26 à Glasgow. Léonore Monconduit, vous y serez d'ailleurs entre le 9 et le 12 novembre, vous y allez en train, c'est important de le préciser. C'était en tout cas un son qu'on aimerait vous faire entendre, vous l'avez évoqué tout à l'heure déjà, c'était il y a un mois à Milan, à l'occasion du sommet des jeunes sur le changement climatique, Greta Thunberg, l'idole de Nathalie Saint-Cricq, évoquait les promesses des dirigeants.
There is no planet B. There is no planet blah, 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 blah. Build back better, blah, blah, blah. Green economy, blah, blah, blah.
Voilà, blah, 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 le fameux blah, blah, blah de Greta Thunberg. Bon, je le dis, vous serez bientôt à Glasgow du 9 au 12 novembre en tant que vice-présidente climat des Cités Unies France, l'association qui représente les collectivités françaises engagées à l'international. Est-ce que les collectivités, vous êtes en capacité d'empêcher le blah, blah, blah des dirigeants des États que dénonce Greta Thunberg ici?
En tout cas, nous pouvons témoigner du fait que aujourd'hui, le changement climatique peut être une histoire de chiffres au niveau des négociations internationales. Pour nous, c'est une réalité à hauteur d'homme. Nous sommes témoins concrets du changement climatique sur nos territoires. Les discussions que nous avons là entre maires français, nous les partageons entre représentants des collectivités à l'échelle de l'ensemble de la planète. D'ailleurs, le rapport du GIEC indique bien le fait que tout le monde sera touché par les changements climatiques. Et nous réclamons des moyens pour agir sur l'atténuation des changements climatiques, et nous réclamons des moyens pour agir sur l'adaptation des moyens financiers, des moyens en termes de formation. Aujourd'hui, l'accord de Paris s'engageait à ce que 50% des moyens, qu'il y ait un équilibre entre les moyens affectés à l'atténuation et l'adaptation. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. Le rapport du Haut Conseil pour le climat qualifie la stratégie d'adaptation européenne de déclaratoire. Un récent rapport du think tank I4CE indique que 5% seulement des dépenses de l'État français sont dédiées à l'adaptation. Et donc, parmi nos demandes au niveau des collectivités, nous demandons des moyens pour adapter nos territoires, parce que vous l'évoquiez tout à l'heure, nos citoyens nous demandent des comptes et nous sommes responsables d'assurer la transition de nos territoires, mais aussi la protection des citoyennes et des citoyens demain.
Léonore Monconduit, vous êtes membre du Parti Europe Écologie Les Verts. Votre élection témoigne donc d'une certaine angoisse, sans doute, des électeurs de Poitiers. Qu'est-ce que concrètement ces électeurs peuvent attendre de vous demain? Est-ce que vous avez recueilli des demandes de leur part? Concrètement, qu'est-ce qui pourrait se passer à l'issue de cette COP 26 pour les habitants de Poitiers?
À la COP 26, donc je ne représenterai pas uniquement Poitiers, encore une fois, je porterai la parole de l'ensemble des collectivités. J'aurai à cœur non seulement de relayer les angoisses de mes concitoyennes et mes concitoyens, et en particulier des plus jeunes. Je suis frappée par le fait que 75% de la jeunesse aujourd'hui se disent préoccupés par son avenir, 60% extrêmement préoccupés. Mais j'aurai à cœur aussi de m'appuyer sur les solutions que nous mettons en œuvre à l'échelle de nos territoires. Nous sommes une écologie porteuse de solutions, et pas que l'écologie d'ailleurs. Je crois que l'ensemble des maires autour de la table sont confrontés à ces problèmes-là et s'en saisissent sérieusement pour apporter des solutions aux concitoyennes et aux concitoyens. Je pourrais citer de nombreux exemples que nous mettons mettons en place à l'échelle de notre ville, de notre communauté urbaine. Je pense par exemple, pour prendre un exemple, à la question des transports publics. D'ici quelques années, nous sortirons complètement du diesel dans nos transports publics en mettant en place un système au biogaz, c'est-à-dire un système qui contribue à la fois à l'atténuation, moins 85% d'émissions carbone par rapport à un système de bus au diesel, mais aussi à l'adaptation, puisque nous ne dépendrons plus de ressources fossiles et qui ne sont pas produites dans notre territoire, puisque notre biogaz est produit uniquement à partir de ressources locales. C'est un exemple de solution que nous mettons en place qui est structurante à l'échelle de nos territoires.
Éric Fournier, je rappelle que vous êtes le maire de Chamonix, pour que tout le monde réussisse à bien suivre. Vous êtes maire depuis 2008. Concrètement, vous pouvez nous dire, les COP, ça a apporté quoi jusqu'à maintenant à Chamonix, par exemple ? Alors que les enjeux climatiques sont énormes.
On est optimiste et on attend beaucoup de la COP 26. Donc on va dire.
Ça veut dire qu'avant ça n'a jamais très bien fonctionné. Vous n'avez jamais obtenu des choses intéressantes.
Sur le terrain, c'est pas véritablement pour le moment la COP. En tout cas, peut-être sur la prise de conscience politique et de l'opinion publique. Pour le moment, effectivement, la retranscription en tant que maire, c'est un tout petit peu éthéré, hein, comme résultat. Donc effectivement, on en attend quand même beaucoup parce que l'État, les États, la mise en cohérence des États, le financement, comme cela vient d'être dit, qui doit être apporté. Mais aussi l'harmonisation sur un certain nombre de sujets, comme les clauses sociales, comme tout ce qui n'avait pas été finalement convenu au moment de l'accord de Paris, est très attendu. Nous, on fait notre travail au niveau local sur le transport collectif, sur encore que là aussi, on a besoin aussi de lâcher un petit peu la bride, hein, du côté des collectivités. Ce qu'on demande, c'est pas forcément de l'argent, c'est aussi des capacités à expérimenter. Par exemple, moi, je fais une ZFE volontaire à l'échelle de mon territoire.
Ouais, ZFE, ça veut dire
quoi ? Zone à faible émission. Ah, je vous prie de m'excuser. En fait, c'est, vous savez, mais qui se veut pas punitive, qui se veut juste. Justement, voilà, qui se veut pas punitif, qui se veut pour aller en direction de toutes les problématiques que nous avons, y compris climat, pas simplement au niveau de la qualité de l'air.
Éric Fournier, tout à l'heure, vous évoquiez les sustainable cities, les villes durables, dans lesquelles vous êtes évidemment avec Chamonix, notamment de haute altitude. Vous êtes en train de nous dire que toutes les COP et l'accord de Paris, on se souvient de Laurent Fabius tapant sur la cloche, ça y est, la solution est là, ça n'a eu aucun impact chez vous. Zéro impact.
Je pense qu'on trouve, il faut pas dire ça, je veux être positif, et la transcription, je pense que les États veulent nous aider. Simplement, on attend d'aller beaucoup plus loin maintenant et une amplification. On sait que c'est un petit peu la COP de la dernière chance, hein, et que depuis la COP, les accords de Paris.
Ne veut pas qu'on utilise cette expression.
Ah, bah oui, bah tant pis, hein. Tant pis, nous, on va le faire. Nous, on va le faire parce qu'on est sur le terrain. Et c'est vrai qu'une des choses qui se passe mal quand on est maire, effectivement, c'est que de temps en temps, on nous dit, mais pourquoi vous pouvez pas aller plus loin? Et quand on est sur un contexte national et des règles nationales ou internationales qui nous empêchent d'aller aussi loin qu'on le souhaiterait, c'est un tout petit peu frustrant.
Alors, vous, Éric Fournier et Léonore Monconduit, vous avez utilisé deux fois la même expression de aller chercher des financements. Pour qu'on soit vraiment très clair, vous voulez aller chercher des financements auprès de qui, à travers cette COP 26? C'est forcément l'État français ou c'est même au-dessus de l'État français?
Oui, c'est parfois au-dessus, hein. Nous, on travaille énormément.
On travaille, par exemple, à quelle porte?
Énormément avec, dans le contexte européen. On a la chance d'être un territoire frontalier. C'est une chance d'être un territoire frontalier. Mon voisin de Dunkerque, évidemment, je pense, doit penser la même chose. Les financements de programmes européens, par exemple, sur les solutions d'adaptation. Nous, on a un grand programme qui s'appelle Adapte Mont Blanc. C'est l'Italie, c'est la France et c'est la Suisse. Donc, l'Europe, notamment, est un très gros financeur.
Justement, votre voisin de Dunkerque, Patrice Vergriet, il y a eu un sondage qui dit qu'en gros, il y a 6 Français sur 10 qui se font aucune illusion sur la COP 26 en considérant que c'est un cirque international qui ne va pas déboucher sur grand-chose. Pour aller un petit peu plus loin, est-ce que même s'il n'y a pas la Chine, même si les autres pollueurs sont des pays qui ne sont pas là, est-ce que vous pensez quand même qu'à l'échelon européen, comme le disait Éric Fournier, on peut obtenir quelque chose et que même si on est tout seul dans notre petit coin ou quelques maires, ça peut servir à quelque chose?
Je suis pas très loin de penser comme les 6 Français sur 10. Hein. Bien entendu, la COP 26, elle peut amener un cadre international qui peut permettre de faire avancer les choses. Mais moi, j'ai le sentiment concrètement sur le terrain que c'est deux choses qui font avancer. D'abord, un discours au niveau national ou international, notamment sur les rapports du GIEC, qui montre l'urgence climatique. Ce discours-là, il est essentiel, les médias le font.
Mais je pense que c'est important.
Il est nécessaire. Il faut faire maturer l'opinion publique, c'est très important. Et de l'autre côté, des actions de terrain. On a mis en place des dispositifs à Dunkerque, un programme qui s'appelle Éco-Gagnant, par exemple. On connaît bien Éco-Gagnant à l'échelle nationale, parce que c'est le bus gratuit à Dunkerque qui a fait beaucoup parler de lui, et qui a permis d'ailleurs de multiplier par 2 la fréquentation du transport public en 3 ans. Hein. Aucune agglomération n'avait fait ça. Mais il n'y a pas que ça dans le programme éco-gagnant. Il y a un plan vélo. On est en train de mettre en place des aides pour la récupération de l'eau de pluie. On est en train de réviser complètement la collecte des déchets et arriver à une diminution de la production de déchets. On a mis en place un dispositif qui s'appelle éco-gagnant. À Dunkerque, vous pouvez avoir un conseiller gratuitement qui vient vous expliquer ce qu'il faut faire pour améliorer la performance énergétique de vos logements. Il vous accompagne pour trouver les aides. Il vous accompagne avec les entreprises. Ça, c'est concret. Et là, les gens s'appuient là-dessus. La preuve, regardez sur le bus gratuit, ça fonctionne. Donc effectivement, je crois beaucoup en un discours national et international pour faire évoluer les mentalités, parce qu'on est une ville démocratique. Et donc si on ne fait pas évoluer la population, ça ne marche pas dans un pays démocratique. Et de l'autre côté, des actions très concrètes de terrain, souvent portées par les communautés d'agglos, les communautés urbaines, tout ce que l'on appelle les intercommunalités.
Est-ce que les uns et les autres, dans vos communes respectives, Chamonix, Poitiers et Dunkerque, vous vous êtes saisis de ce moment de la COP26 pour faire des animations spécifiques dans les villes? À Paris, on le voit beaucoup, mais est-ce que c'est le cas aussi dans vos villes, qui sont des villes moyennes, voire des petites villes comme Chamonix? Éric Fournier sourit.
Ah non. Non, parce qu'alors là, si on veut justement rater et perdre en crédibilité, il faut le faire juste à cette occasion-là. Il faut le faire toute l'année. Et je partage tout à fait ce que dit notre collègue de Dunkerque. On pourrait cloner un peu les opérations, parce que nous aussi, c'est transport collectif gratuit depuis 20 ans. C'est
pas les télécabines, hein.
Ça c'est autre chose, mais effectivement. Les transports en public, en tout cas, sont tous effectivement gratuits. Et on a le même type d'action sur la rénovation, sur le changement de l'énergie, sur la décarbonation, le passage au gaz, et puis demain, probablement au réseau chaleur. Par contre, si on le fait que au moment de la COP, alors là, effectivement, je pense qu'on perdra en crédibilité.
À Poitiers, comment ça se passe?
Oui, alors comme l'a dit mon collègue de Dunkerque, effectivement, moi je suis plutôt optimiste. Enfin, contrairement à ce qu'il a dit, je suis plutôt optimiste sur la question de la COP, mais je suis d'accord avec lui sur la question que l'enjeu n'est pas simplement l'issue des négociations, c'est aussi le changement de culture que ça permet d'impulser. Et à ce titre-là, moi je me saisis vraiment de ma participation à la COP comme un levier pour sensibiliser largement, mais y compris les poids de vin et les poids de vin, avec des actions de culture scientifique et technique, par exemple diffuser la connaissance autour des enjeux climatiques. Et puis je réunis aussi la semaine prochaine la jeunesse mobilisée, la jeunesse poitevine mobilisée pour le climat, parce qu'il me tient à cœur aussi, lors de cette COP, de porter la parole de cette jeune génération. Il y a 30 ans, on parlait des générations futures comme étant l'un des enjeux des négociations. Bon, ben aujourd'hui, les générations futures, elles sont aux responsabilités, elles arrivent aux responsabilités, et notre horizon n'est pas le même que celui des décideurs d'il y a 30 ans, et c'est aussi ces avis-là que je veux recueillir, et c'est aussi cette parole-là que je veux porter en tant que jeune responsable politique qui hérite d'un monde compliqué, et qui aura à en gérer les conséquences très concrètement.
On parle beaucoup d'éco-anxiété chez les jeunes. Et alors, à Dunkerque, pour finir le tour de table, est-ce que vous êtes saisi de la COP26 pour en faire quelque chose d'important dans votre ville en termes de lutte contre le réchauffement climatique?
Alors, à Dunkerque, on a la chance, c'est qu'on a créé les assises de la transition énergétique il y a 20 ans. Et donc, on s'appuie sur cet événement pour faire beaucoup de communication autour de ces problématiques. On a aussi un outil d'éducation populaire extraordinaire qui s'appelle la halle au sucre, qui est en fait unique à l'échelle nationale, qui vulgarise en fait à l'ensemble de la population tous les enjeux de la ville durable, qui est un peu le levier de France Ville Durable, dont j'ai la présidence au niveau national. Donc on a énormément d'outils, effectivement, ce que j'appelle d'éducation populaire, parce que c'est de ça dont on parle, d'éducation populaire, pour essayer d'expliquer, de donner du sens à la population sur ce qui est en train de se passer. Donc à la fois, je parlais du discours au niveau national qui est nécessaire, mais aussi des outils au niveau local.
Je précise juste, pour que ce soit clair pour tout le monde, que vous êtes élu divers droite, plutôt divers gauche, plutôt à l'écart des partis politiques. Vous êtes, vous, Léonard Monconduit, à Poitiers, Europe Écologie Les Verts, et vous, Éric Fournier, vous êtes divers droite. Donc vous êtes de partis politiques différents, de couleurs différentes, mais on entend un discours, effectivement, un discours de responsabilité écologique assez proche les uns des autres, c'est à remarquer.
Est-ce que vous sentez que vous êtes suffisamment aidé par le gouvernement en faisant un tout petit peu de politique? Est-ce que vous vous sentez seul? Parce que vous avez dit que l'échelon municipal était important, y compris dans toutes les villes du monde, Éric Fournier. Est-ce qu'en gros, vous êtes tout seul avec vos petits bras, ou vous avez l'impression qu'on vous aide, tous les trois?
Moi, je veux bien répondre, parce que...
Patrice Vergué, maire de Dunkerque.
Oui, là-dessus, je pense que le gouvernement se trompe dans son rapport aux collectivités.
Ce gouvernement-là en particulier?
Oh, tous les gouvernements sont trompés sur le rapport aux collectivités. Je pense qu'aujourd'hui, au lieu d'essayer d'édicter des règles au niveau national, qui sont intelligentes, comprises au niveau national, mais qui parfois s'appliquent sur le terrain avec des effets pervers incroyable. Je pense à MaPrimeRénov', par exemple.
Vous trouvez qu'on vous laisse passer la bride?
Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est s'appuyer sur les collectivités qui développent des politiques publiques et les aider. Un prix à taux zéro, par exemple, pour financer toutes les politiques publiques en faveur de la transition énergétique. MaPrimeRénov', régulée à l'échelle locale par les collectivités.
C'est trop jacobin.
Bien sûr que c'est trop jacobin.
Comme dans le reste
Mais bien sûr.
Oui, Éric Fournier, maire de Chamonix.
Je partage totalement. La transition, c'est affaire de territoire. Et ce que nous avons en termes de dotation sur les territoires n'est pas la même chose. J'ai pas les problèmes du littoral de Monsieur Vergritte ou les problèmes du Poitou. Par contre, quand j'entends parler effectivement, par exemple, d'une priorité qui est donnée sur l'éolien, vous imaginez que moi, en termes d'ENR, c'est pas exactement celle que je vais devoir mettre en place. Donc, il y a d'un côté une écoute et véritablement la nécessité de décentraliser cette transition. C'est absolument essentiel. On le voit dans le cadre de l'énergie. L'énergie remet en cause tous nos modèles antérieurs. C'est chouette. On a un nouveau rapport entre le rural et l'urbain qui se dessine. Donc, il faut donner, lâcher un petit peu la bride pour les territoires. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est même presque aussi important que les financements directs.
Léonore Monconduit, vous considérez aussi que ce moment-là d'urgence climatique est aussi un moment qui doit se transformer d'un point de vue des institutions par une décentralisation accrue.
Je pense qu'il faut trouver un équilibre entre un État, une force publique au sens large, y compris au niveau international, qui donne la direction, qui donne le cap, à l'heure de la COP26, qui est avant tout un événement de négociation entre États. J'attends quand même des signaux forts de la part des États, lorsqu'on voit que les engagements pris lors de la COP de Paris, d'une part, ne sont pas respectés, d'une part, ne vont pas assez loin. par rapport aux perspectives que nous donne le GIEC, mais en plus qu'ils ne sont pas respectés, comme l'indique le jugement qui vient de condamner l'État pour inaction climatique. Nous avons besoin d'États qui prennent des engagements forts en faveur de l'urgence climatique. Un certain nombre de décisions sont attendues à la COP, l'annonce de la sortie du charbon, par exemple, qui concerne moins la France que d'autres pays, mais notre responsabilité...
On s'est quand même tenu plutôt presque mieux que les autres à l'échelon européen.
Alors, on pourrait en discuter, parce qu'aujourd'hui, le bilan carbone de la France se fait sur la base d'un inventaire national qui ne prend pas en compte les émissions importées. L'empreinte carbone de la France, si on voulait être sincère, prendrait aussi en compte l'impact carbone des produits que nous importons, qui n'est aujourd'hui pas pris en compte dans la France, mais, ou chinois.
Des productions qu'on a délocalisées dans d'autres pays.
Voilà, c'est ça. Voilà, par exemple. Mais donc, pour terminer, il faut à la fois des engagements nationaux et internationaux forts, et je crois vraiment en la force publique et en l'opportunité que cette situation inédite pour l'humanité représente pour la force publique, la capacité de reprendre en main notre destin par les élus qui nous représentent. Et en même temps, il faut effectivement une décentralisation, une confiance accordée au territoire dans la manière de mettre en œuvre cette transition. Nous sommes de nombreuses collectivités, j'imagine que mes collègues aussi, à avoir bénéficié du plan de relance, par exemple. Je déplore le fait que les plans de relance n'aient pas donné d'indication plus forte sur la différence qu'il devait y avoir entre le monde d'avant et le monde d'après. Nous avons, nous, financé des projets vertueux, des projets de réhabilitation énergétique des bâtiments, des projets de requalification de friches. C'est très bien. Mais c'était sur la base de la volonté des collectivités. J'aurais aimé un cadre plus ferme en faveur de l'urgence climatique de la part de l'État.
Léonore
Monconduit, vous êtes donc représentante des villes à cette COP26. On en parlait tout à l'heure, il y a le sentiment de promesses non tenues jusqu'à présent. Est-ce que le principal risque, finalement, c'est pas le découragement ?
Non, parce que...
Jamais,
d'une part. Nous sommes en responsabilité. Encore une fois, le découragement n'est pas ce qu'attendent de nous nos concitoyennes et nos concitoyens. Et donc, le découragement... on ne pourra pas aujourd'hui, le rapport du GIEC nous dit que la barre des 1,5 degrés est désormais hors de portée. On s'achemine plutôt vers 2 degrés.
Même si le G20 ce matin a rappelé son désir de maintenir les 1,5 degrés.
Oui, on peut faire de la politique fiction. Néanmoins, aujourd'hui, nous, maires en responsabilité,
ni les uns ni les autres.
Nous devons, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est que nous devons faire preuve de réalisme, de lucidité et de responsabilité vis-à-vis de nos concitoyennes et concitoyens. C'est pour ça que je plaide autant pour la question de l'adaptation, nous donner les moyens de l'adaptation, puisque c'est la perspective dans laquelle on se situe. Et puis, l'une des autres demandes que portent les collectivités à la COP, c'est celle de la construction d'une solidarité internationale entre collectivités. Alors là, c'est pas que la France, mais les pays les plus vulnérables demandent notamment la prise en compte des loss and damage, c'est-à-dire les pertes et dégâts liés au changement climatique. Et notamment, les collectivités demandent la reconnaissance et la prise en compte par les pays historiquement les plus responsables des conséquences aujourd'hui du changement climatique. Et du point de vue des collectivités, c'est une demande légitime à soutenir. Et pour terminer,
c'est la fameuse enveloppe de 100 milliards
Alors notamment, oui, la fameuse enveloppe de 100 milliards qui avait été décidée lors de la COP à Copenhague en 2019. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. On estime qu'il manque 20 milliards d'euros par an. Et justement, vous parliez de levier financier. Moi, je pense qu'une partie de cette enveloppe devrait être directement fléchée envers les collectivités qui sont les premières à pouvoir mettre en œuvre à la fois les solutions et à la fois les mécanismes de protection des citoyennes et des citoyens.
Patrice Vergritte, vous êtes à la tête d'une commune et d'une intercommunalité, Dunkerque et le Grand Dunkerque, 90 000, 200 000 habitants. c'est aussi le troisième port de France, voire même, si on ajoute Boulogne et Calais, la première interface portuaire du pays. Quand vous entendez la question de l'importation, de la pollution, etc., est-ce que vos oreilles sifflent un peu? Et là, on entre un peu dans une question peut-être un peu plus difficile, qui est celle de la mise en relation des différentes activités dans une ville, les unes pouvant polluer mais créer de l'emploi, et des autres pouvant dépolluer mais pouvant effectivement entraîner des conséquences sociales et économiques problématiques.
Cette problématique du rapport entre environnement et emploi, on est en plein dedans à Dunkerque, puisque je vais vous donner un chiffre, 21%. 21% des émissions de carbone industrielle françaises, c'est Dunkerque. 21% des émissions de CO2 industrielles françaises, c'est Dunkerque. Nous avons le premier émetteur, c'est la sidérurgie évidemment, le premier émetteur de CO2 en France. Alors la problématique emploi-environnement, ou plutôt la problématique emploi-climat, le territoire dunkerquois est évidemment au cœur de l'enjeu. Qu'est-ce qu'on fait? On a engagé avec les industriels du territoire, avec le port également qui est associé, un projet très ambitieux de décarbonation, d'ailleurs qui a fait l'objet d'un soutien de l'État dans le cadre de territoires d'innovation, où on veut essayer d'être l'industrie décarbonée du 21e siècle, et on essaie d'accompagner au mieux. Petit problème, c'est que ce sont les territoires industriels aujourd'hui qui perdent le plus de dotations de l'État. C'est très intéressant quand on parle de financement tout à l'heure, c'est-à-dire que les territoires qui ont le plus besoin de décarboner, d'accompagner l'économie dans la décarbonation, pardon, eh bien aujourd'hui, c'est les plus pénalisés. Mmh. Moi, je perds chaque année 1 million de dotations de l'État. Or, je dois investir. Le Grand Port Maritime, par exemple, m'a demandé 2,5 millions pour accompagner un certain nombre de projets de décarbonation. Donc, c'est extraordinaire aussi ça, quand on regarde effectivement la justice fiscale et qu'on oublie le critère transition énergétique dedans. Donc voilà, donc nous, on est dedans. Moi, je vois des industriels motivés qui se sont engagés sur la neutralité carbone en 2050, y compris ArcelorMittal Dunkerque, par exemple, pourtant, un premier émetteur au niveau national, qui veut passer effectivement à l'hydrogène demain. On accompagne. Les bus aussi à Dunkerque passeront à l'hydrogène prochainement.
Et Coca-Cola?
Pardon?
Coca-Cola?
À Coca-Cola, il passe sur la communauté urbaine de Dunkerque. Il est un petit peu plus loin.
Ça, vous avez de la chance, vous avez du bol là-dessus.
Est-ce que chacun de vous trois, vous avez par rapport à la décarbonation un rapport idéologique, j'entends. Est-ce que vous ne vous dites pas de temps en temps, le nucléaire finalement, c'est propre. Est-ce que les éoliennes, c'est peut-être moche et peut-être nos concitoyens n'aiment pas ça, mais c'est propre. Comment est-ce que vous envisagez ce genre de choses? Ou est-ce que vous vous dites, est-ce que vous êtes surtout pas pragmatique? C'est-à-dire tout vaut mieux que le charbon. On va changer un peu. C'est à Éric Fournier, maire de Chamonix.
Pas d'idéologie du pragmatisme. D'abord, effectivement, je pense que quand on veut réussir la transition, il faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'il faut prioriser. Il faut savoir que demain, ça ne sera pas comme hier. Moi, j'ai passé 2 heures de temps avec des gens beaucoup plus intelligents que moi, les gens du GIEC qui ont eu le plaisir de m'inviter. Enfin, moi, j'ai eu le plaisir d'être invité par eux. J'ai appris plein de choses. Et ce que j'ai appris, c'est que ça ne sera pas pareil demain et que donc, il va y avoir de la casse. Et quand il va y avoir de la casse, ça veut dire qu'il va falloir qu'on choisisse. Je prends un exemple. Quand on a un enjeu de transition énergétique sur un territoire et qu'on va devoir mettre une nouvelle source d'énergie renouvelable versus un certain nombre d'autres sujets paysagers ou autres, il va falloir qu'on choisisse. Alors par exemple, oui, sur le nucléaire, moi je fais partie de ceux qui considèrent que effectivement, si on a un peu moins de charbon actuellement, c'est probablement parce qu'on a fait ce choix.
Et si on vous disait chez vous, on vous installe les fameux petits,
il faudra que ce soit vraiment petit pour aller chez moi.
Mais a priori, vous n'avez pas de refus catégorique.
Mais je crois que la première des choses qu'il faut réussir, c'est effectivement baisser les gaz à effet de serre. C'est ça la priorité. Après, effectivement, il y aura, sur un certain nombre de secteurs de notre environnement, malheureusement, des effets secondaires.
Mais quand on parle de lui...
Oui, alors je suis dans la même approche pragmatique que mon collègue. Aujourd'hui, la question climatique n'est pas une question d'opinion politique. La centralité de la question climatique dans nos perspectives d'avenir, si vous ne croyez pas en les politiques, vous croirez peut-être la science. L'unanimité des scientifiques qui ont rendu le premier volet du nouveau rapport du GIEC, la loi aussi, je l'ai rappelé tout à l'heure, et tous ces, comment dire, les rapports scientifiques et les personnes notamment qui pensent l'avenir de la transition énergétique, des rapports sont sortis importants la semaine dernière, on pourra y revenir si vous le souhaitez, mettent en priorité la question de la sobriété. On ne pourra pas s'en sortir uniquement par l'innovation technologique, par la substitution de nos moyens de production énergie actuels par d'autres, si on ne réduit pas en même temps nos besoins en matière d'énergie. Et donc c'est la logique.
Donc pour réduire l'activité économique, c'est ça?
Il faut différencier d'une part l'efficacité énergétique, c'est-à-dire ce qui nous permet à besoin constant de consommer moins d'énergie, mais effectivement il faut aussi aller vers la sobriété de nos usages. Il n'y a pas de corrélation entre consommer moins d'énergie et faire ralentir l'économie. Enfin, au contraire, c'est parce qu'on anticipe et parce qu'on s'organise qu'on saura assurer la résilience de notre système économique et les emplois qui y sont liés.
France Inter.
Question politique. Thomas Negaroff.
Elle est toujours avec nos trois maires de villes françaises, maire de Chamonix, maire de Poitiers et maire de Dunkerque. On va évoquer peut-être des sujets qui fâchent davantage, notamment dans des choix que vous avez pu faire les uns les autres ou que vous allez devoir faire les uns des autres. Patrice Vergritte, je me tourne vers vous, le maire de Dunkerque. Vous avez actuellement un grand projet d'éolienne marine que vous assumez. Votre député est plutôt défavorable à ce projet. Est-ce qu'on n'est pas là au cœur des problèmes actuels et à venir quand il s'agira de lutter contre le réchauffement climatique?
Mais bien entendu, la question de la sensibilisation de la population dans un pays démocratique est fondamentale. Dunkerque, c'est pas seulement la construction d'un parc éolien offshore, c'est aussi la plus grande centrale nucléaire d'Europe occidentale, avec un projet de deux EPR sur Dunkerque. Mmh. Donc c'est à la fois nucléaire et renouvelable sur le territoire dunkerquois. C'est un choix complètement assumé. Les besoins... Tout à l'heure, je parlais de la plateforme industrielle dunkerquoise, mais les besoins pour décarboner l'industrie demain sont tels. L'équivalent de la totalité de l'électricité produite par le parc éolien offshore sera pour ArcelorMittal Dunkerque. C'est l'équivalent. Vous vous rendez compte? Quand on va vouloir décarboner l'industrie à Dunkerque, il va falloir de la production d'électricité massive. Donc oui, il faut de l'éolien, oui, il faut du solaire, et oui, il faut du nucléaire en France. Et on l'assume complètement, on ne saura pas faire sans. Et puis, comme l'a dit Madame Monconduit, il faudra aussi réussir à avoir une meilleure efficacité énergétique. Mais c'est l'ensemble, je ne crois pas qu'on puisse se passer d'un.
Vous répondez quoi aux marins pêcheurs qui s'inquiètent de voir ces éoliennes?
Les marins pêcheurs sont d'accord avec le parc éolien offshore de Dunkerque.
Alors qui est défavorable et pour quelles raisons?
On a quelques habitants pour des raisons essentiellement de visibilité. Voilà, on tient un paysage, c'est tout, et puis un discours un peu classique sur l'éolien en France. Mais très sincèrement, la majorité de la population dunkerquoise aujourd'hui adhère au projet de décarbonation. En plus, il y a des enjeux pour l'industrie aussi. La décarbonation, c'est aussi moins de pollution, une meilleure qualité de l'air derrière quand ArcelorMittal va passer à l'hydrogène. N'oublions pas que le monde de demain, il a aussi énormément d'avantages.
Patrice Vergritte, là, sur Dunkerque, justement, et ce cas spécifique des éoliennes, comment passer outre cet obstacle? Est-ce qu'il faut passer en force?
Non, il faut expliquer. Quand je parlais d'éducation populaire tout à l'heure, il faut contrer un certain nombre de discours aujourd'hui qui sont faux, qui sont mensongers, qui ne correspondent pas à la réalité. Il faut rassurer aussi. Moi, beaucoup de ma population veulent voir. Voilà, ils veulent voir. Alors, ça va être concrètement comment les éoliennes, on veut... Voilà, on a besoin de rassurer, parce qu'effectivement, aujourd'hui, en particulier avec les réseaux sociaux, il se fait des caricatures, en fait, des projets de la production renouvelable. Donc voilà, et moi, mon rôle en tant qu'élu, c'est d'expliquer, d'apporter les éléments qui permettront à la population d'être rassurée.
Juste une précision. Donc vous êtes vers un côté pragmatique, c'est remettre de l'éolien, du nucléaire, faire tout ce qu'on peut pour être décarboné. Je reste un peu sur ma fin sur votre réponse sur le nucléaire. Surtout les écologistes, les éoliens pour conduire, ont toujours été extrêmement hostiles. On entend un petit peu un discours en ce moment un peu plus pragmatique du genre 2030-2035, enfin quand on pourra le faire. Est-ce que vous considérez qu'il faut s'adapter? J'ai compris qu'il fallait moins consommer, ça j'ai complètement compris. Je voudrais juste savoir, quand dans votre mix à vous, est-ce que vous acceptez que le nucléaire ait une part un peu plus importante que ce que vous voudriez?
Alors, les horizons ne sont pas du tout aussi évasifs que vous l'indiquez. Nous nous fondons depuis longtemps sur le rapport Négawatt, qui est un rapport fondé par des experts des questions de transition énergétique, dont le dernier volume est paru la semaine dernière, et qui indique que la sortie du nucléaire est tout à fait possible, si tant est qu'on prenne les bonnes décisions maintenant et qu'on décide de s'organiser en fonction de cela. Et le rapport Négawatt a évolué pour tenir compte des non-décisions du gouvernement en la matière, puisque le précédent rapport prévoyait une sortie du nucléaire en 2035, aujourd'hui il le prévoit en 2045. Donc ce sont donc des éléments étayés par des données scientifiques. Et donc moi, mon approche se fonde sur ce rapport-là, parce que d'une part, c'est le seul à envisager la sobriété, je ne vais pas y revenir, mais ça reste la priorité. Et il se fonde aussi sur des technologies qui sont matures, c'est-à-dire que l'autre rapport qui fait référence notamment auprès du gouvernement, c'est le rapport RTE. Sauf que ce rapport-là se fonde sur des paris technologiques forts, ce sont les termes du rapport, c'est-à-dire une inconnue technologique aujourd'hui. Je préfère me fonder, au contraire, sur les éléments étayés qui sont en capacité d'être développés et massifiés de manière industrielle rapidement. Et le scénario Négawatt fait autorité en la matière, à mon sens.
Permettez-moi d'insister, en fait, pour poursuivre sur la question de Nathalie. Vous disiez tout à l'heure, effectivement, il faut mettre en priorité la sobriété énergétique. On voit dans les scénarios du réseau de transport électricité que malgré tous les efforts qu'on pourrait faire, la consommation d'électricité va augmenter, notamment pour transformer tout ce qui aujourd'hui est consommé via hydrocarbures et le transformer en électricité. Pour faire face à cette hausse inéluctable de l'électricité, est-ce que le nucléaire est une solution écologique ou pas, à vos yeux?
Le nucléaire, aujourd'hui, nous en avons besoin effectivement pour produire la quantité d'énergie dont nous avons besoin, qui sera croissante. En effet, si on veut substituer une énergie à une autre, il ne faut pas se leurrer. Oui. Clairement, on aura besoin d'électricité de manière importante à court terme. Néanmoins, ce qui compte, c'est la direction politique. De nombreux observateurs semblent croire que le nucléaire est indépendant des questions de climat qu'on mentionnait juste avant. Or, on sait très bien que les dangers liés à l'énergie nucléaire vont augmenter avec le changement climatique. On parlait des risques de submersion. La centrale de Blaye, par exemple, on sait qu'en 2050, en tout cas selon les projections, en 2050, elle sera sous les eaux. À côté de chez moi, il y a la centrale de Civaux, à 30 km de Poitiers. C'est une centrale qui est refroidie par le cours d'eau des rivières et on sait que ses débits en surface vont diminuer de 40% dans les prochaines années. Et lors de la canicule en 2003, un quart des réacteurs avait dû être arrêté faute de pouvoir les refroidir. Donc, les risques nucléaires sont connus, mais ils vont s'intensifier avec le climat. Et donc, si on veut s'adapter au changement climatique et protéger nos populations, il faut aussi... je pense, continuer d'être dans la perspective d'en sortir.
Éric Fournier, chez vous, vous avez de l'or, c'est l'or blanc, la neige, qui disparaît saison après saison. C'est, j'imagine, au cœur de votre modèle économique de Chamonix, même si l'été, vous avez beaucoup de touristes du monde entier qui viennent en avion, du Japon ou des Émirats. Comment vous imaginez l'avenir pour une ville comme Chamonix ?
Alors, le tourisme de demain sera absolument différent de celui qu'on connaît. D'abord, la première chose qu'il faut faire, c'est vraiment travailler sur un tourisme qui est un tourisme de séjour et essayer de casser, c'est pas le propre de Chamonix, c'est tous les grands sites touristiques qui sont confrontés à cette difficulté, le tourisme simplement à la journée d'excursionniste. Là, on a un véritable problème. Après, on a spécifiquement sur le problème des montagnes, le sujet à la fois du maintien de ce qui peut être fait d'une manière décente sur la neige. Je rappelle que sur la neige, il y a heureusement encore des capacités pendant quelques décennies à avoir de la neige sans insulter l'avenir. Et puis sur la diversification. Nous, par exemple, à Chamonix, on investit très fortement sur le tourisme scientifique et technique. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, bah, tiens, ce changement climatique, non seulement on ne va pas le nier, mais on va se mettre en position d'être un laboratoire pour expliquer, puisque ça va un peu plus vite chez nous qu'ailleurs, quelles sont les bonnes solutions. Et comme on a la chance d'avoir beaucoup de scientifiques qui viennent, vous aviez une archive de 1962, je crois, qui le montre, eh bien, venez, on vous finance, on vous met des locaux à disposition et en échange, vous allez nous faire de la pédagogie. On a la chance d'avoir quelques millions de personnes effectivement qui passent. Eh bien, il faut se servir effectivement de ces sites emblématiques, de ces sites laboratoires pour aller vers le citoyen et expliquer qu'il faudra faire différemment à l'avenir. Et c'est un tourisme qui est tout à fait compatible, qui va par contre devoir évoluer de manière drastique.
Mais Éric Fournier, on a quand même le sentiment que vous tirez sur la corde. Voilà, le glacier à Chamonix recule. À un moment donné, on se pose juste une question toute simple, c'est pourquoi on ferme pas? Pourquoi on continue à autoriser autant de gens à y aller
Et je précise que le maire de Saint-Gervais a essayé de limiter drastiquement l'accueil dans les refuges.
C'est deux problèmes totalement différents.
Expliquez-nous.
Parce qu'il ne faut pas confondre le sommet du Mont-Blanc, où on a un problème d'incivilité, et on est complètement d'accord avec le maire de Saint-Gervais sur le sujet, et l'ensemble de la fréquentation de la montagne. Quand on va en montagne, et la plupart des gens y vont, 98% je crois exactement, ne font pas de haute montagne, et ne vont pas sur le glacier. Il y a un côté d'observation, il y a un côté de randonnée, il y a un côté outdoor qui continue heureusement à exister. Ce qu'on sait par exemple, on a fait des scénarios avec la montagne va évoluer, le glacier va fondre, le paysage va changer, on va avoir beaucoup plus de forêts en altitude. Pour autant, ces forêts ne vont pas devenir infréquentables par l'homme. Donc le sujet, c'est de relire effectivement notre paysage et notre rapport entre l'homme et la nature. Ah oui, ça il faudra effectivement le faire, ça veut dire qu'il y a peut-être certains secteurs sur lesquels nous n'irons plus, et puis il y en a d'autres sur lesquels on fera des activités différentes. Il faudra se déplacer différemment pour venir, et on sera exigeant là-dessus. C'est-à-dire qu'effectivement, vous ne viendrez pas si jamais vous avez vu Venise. Venise a pris des dispositions parce qu'il y a des difficultés. Il y a plein
de choses. Vous empêcherez les cars d'arriver depuis l'aéroport de Genève, par
exemple. Ce qu'on va faire, c'est de leur dire si vous voulez bénéficier d'une bonne expérience, effectivement, il faudra peut-être demain et à l'avenir réserver. Il faudra peut-être à l'avenir contingenter. Il faudra peut-être effectivement faire en sorte que ce bien précieux, on n'y accède pas en open bar, comme ça se passe.
Mais cette économie liée au tourisme, vous voulez la garder, en fait. Vous voulez pas vous réorganiser.
Ah si, on veut se réorganiser. Parce que c'est une mutation.
Mais toujours axé sur cette économie du tourisme, là.
Mais c'est quand on parle d'économie du tourisme, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle du vendeur de cartes postales? Est-ce qu'on parle de l'hôtelier? Est-ce qu'il faut aider à évoluer notre métier, en fait, à nous aussi? C'est la transition sociale. C'est-à-dire d'expliquer qu'effectivement, on fera pas du tourisme et que les produits qu'on va vendre demain seront pas les mêmes que ceux qu'on vendait hier. Moi, je fais partie des gens qui considèrent qu'effectivement, on peut pas. Il y a trois positions. C'est soit on arrête tout, soit effectivement on laisse tout aller, on fait business as usual. Je veux ni l'une ni l'autre. Je veux moi une position qui consiste à dire comment est-ce qu'on vous aide à évoluer dans vos métiers. C'est la même chose qu'on a chacun dans nos territoires, le littoral, dans le Poitou ou bien en montagne. On va devoir changer de métier, changer
d'économie. Et il faut quand même aussi penser à une chose, c'est qu'il y a les hommes et les femmes qui sont sur ces territoires, et nous, on a envie qu'ils continuent à y vivre.
Justement, il y a un problème peut-être plus global. Vous dites qu'il faut réorienter le tourisme. Est-ce que finalement, il n'y a pas une idée sous-jacente dans tout ça? C'est l'idée de décroissance. Pas au mauvais sens du terme, c'est-à-dire on va arrêter tout, on va garder les mêmes vêtements pendant 10 ans. Mais est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que vous sentez chez vos administrés l'idée qu'il faut consommer autrement, faut consommer moins, faut fonctionner différemment, parce que c'est ça l'avenir? Et est-ce qu'ils acceptent cette idée, ou alors il y a peut-être des jeunes qui considèrent que il n'y a pas de raison que eux se privent quand leurs aînés ont eu leur voiture quand ils voulaient et ont pu faire ce qu'ils voulaient.
Quels sont les retours de vos concitoyens, vos administrés là-dessus? Patrice Verdet, de Dunkerque.
Oui, non, mais moi, je pense qu'il faut rendre la ville de demain, le monde de demain, désirable. Il faut que les gens aient envie. Je le redis, on est dans un pays démocratique. Et moi, le mot décroissance, il me fait peur. La population n'aime pas ce terme. Moi, je préfère parler de vivre mieux demain. Le but du jeu, c'est qu'on vive mieux. Autrement, j'en sais rien. Je vais donner un exemple. Je vais revenir sur le bus gratuit.
Quel impact ça a eu d'ailleurs?
Bah, c'est multiplié par deux la fréquentation en 3 ans. Aucune agglomération dans le monde, je crois, n'avait réussi une telle évolution.
Mais à l'inverse, il y a beaucoup moins de voitures dans les rues?
Oui, 50% en fait du report modal, ça vient de la voiture. Donc il y a deux fois moins de voitures qui circulent.
En fait,
par exemple, l'exemple le plus criant à Dunkerque, c'est à peu près un tiers des parkings de centre-ville sont maintenant vides. Alors qu'ils étaient pleins. Donc vous voyez, ça donne des exemples très concrets. Et ça a modifié aussi les pratiques. Mmh. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous demandez aux Dunkerquois de parler du bus gratuit, ils pourraient vous dire le pouvoir d'achat. C'est pour ça un peu qu'on a communiqué au départ. Non, ils vous parlent du lien social. Ils vous disent « Ah ben maintenant, je vais au travail avec mon copain ou ma copine. Et puis on fait le truc en bus, et puis ils montent à tel arrêt. Et puis j'ai mon copain de bus ou ma copine de bus. » C'est-à-dire, ils ont, à travers une autre façon de vivre, une autre façon de se déplacer, trouver d'autres choses que s'énerver dans une voiture à engueuler ou insulter celui qui est devant. Ils ont découvert autre chose et ils aiment, et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils aiment, d'ailleurs ça n'arrête pas de monter d'ailleurs avec la hausse du prix de l'essence, ils aiment aujourd'hui prendre le bus et ce qu'ils me rapportent est positif.
Sur la décroissance,
je voudrais le faire
globale.
Pour tout, voilà, pour les déchets demain, pour l'eau demain. Il faut la ville de demain, elle doit être désirable.
Vous dites, je n'aime pas le terme de décroissance, mais finalement, est-ce qu'on ne se cache pas derrière un paravent alors qu'il y a un peu de ça?
Non, parce que
ce
n'est pas ça que ça veut dire. Prendre le bus, c'est pas
du bus.
Oui, mais
ça veut dire quand même qu'il faut modifier un peu nos critères de confort. C'est ça ce que vous dites. C'est
que on a manière de vivre.
Notre manière de vivre, voilà. Et montrer ce qu'il y a de positif dans cette manière de vivre. Mais oui, quand ils testent, ils sont d'accord.
Léonore m'ont conduit, j'imagine, je ne connais pas bien Poitiers, mais j'imagine qu'il y a des centres commerciaux un peu en périphérie, des grands hypermarchés. Comment on fait? Est-ce que vous avez aussi, en tant que maire, pas uniquement le désir de les emmener gratuitement au supermarché, mais peut-être de changer aussi l'organisation d'une ville? Est-ce que ça, c'est dans votre capacité et dans vos désirs?
Oui, c'est un bon indicateur parce que Poitiers est en effet, Poitiers et Grand Poitiers, est l'une des communautés urbaines de France qui a le plus de centres commerciaux par habitant, l'un des ratios les plus importants en la matière. Effectivement, et là, c'est là que la corrélation entre écologie et économie est intéressante puisque parmi les demandes fortes de nos concitoyennes et concitoyens, c'est celle de revitaliser les commerces dits de quartier ou de centre-ville pour une petite ville comme Poitiers. Or, on hérite aujourd'hui de choix qui ont été faits de décentraliser les commerces dans des endroits qui ont consommé beaucoup de foncier agricole, qui font où on ne peut se rendre qu'en voiture. Et effectivement, notre enjeu aujourd'hui, c'est d'inverser la tendance, c'est de faire en sorte de soutenir davantage les commerces qui font le choix de rester ou de se réimplanter dans les centres-villes, plutôt que de... Alors, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on ne construira plus de zones commerciales en périphérie de Grand Poitiers. Là, on est territoire pilote de sobriété foncière, c'est-à-dire qu'on s'est engagé à, autant que possible, protéger les terres non artificialisées, et en particulier les terres agricoles dont nous avons besoin pour améliorer notre autonomie alimentaire.
Mais vous dites que c'est bientôt la fin des grandes zones commerciales?
Pour
seulement Poitiers,
Pour nous, oui, mais je sens aussi que c'est la fin d'un modèle.
Vos collègues disent oui avec la tête.
Les centres commerciaux sont en train de se réinventer pour essayer de devenir aussi des espaces de loisirs, etc. Mais honnêtement, quand on veut en même temps aller faire ses courses et faire une balade, eh bien on va dans un centre-ville animé où on trouve aussi de la culture, on trouve aussi du patrimoine historique, plutôt que dans un centre commercial. Je sens une appétence citoyenne pour l'évolution de modèle qui va complètement dans le bon sens sur l'évolution de société que nous appelons de nos voeux.
Claire Gatinois.
Léonore Monconduit, vous avez suscité une polémique au printemps dernier en parlant des rêves des enfants qui devraient, dans lesquels ne devrait plus figurer l'aérien. Est-ce que ça masque pas l'idée que finalement, pour être à la mesure en fait des enjeux climatiques, il faut passer à une écologie punitive? Quel est votre avis là-dessus ?
Et un bouleversement culturel très profond.
Oui, ça n'avait rien de punitif. Hein. Pour rappel, il s'agissait de 4000 euros de subvention à un aéroclub. Donc,
non, mais vos mots avaient été très, très commentés.
Oui, mes mots avaient aussi été sortis de leur contexte. Mais dans le fond, la question de sobriété que je posais tout à l'heure, il faut questionner l'ensemble des systèmes.
Mais qui décidera la sobriété pour qui ? C'est-à-dire, si moi, vous me dites, je veux pas de sapin de Noël, comme on l'a dit à Bordeaux, si après quelqu'un...
Je veux dire, il y a des objets qui sont...
Un certain nombre de polémiques, oui. Parce qu'il y a eu des convergences de déclarations qui ont donné l'impression que c'était une façon de plaquer un modèle sur des gens et de leur imposer un certain nombre de choses en disant ça c'est mal, ça c'est bien, et que peut-être la société ne le supportera pas. C'était juste une question, c'était pas un jugement.
Oui, non, mais j'entends bien et je le prends comme ça, je vous remercie. Mais si on veut, rester en cohérence avec l'approche pragmatique que nous adoptons depuis tout à l'heure, il faut faire aucune impasse sur les objets qu'on questionne, en fait. Et le secteur aérien fait partie des objets qui doivent être questionnés au regard de l'urgence climatique. C'est clair, notamment parce qu'il y a une forte imbrication entre son impact climatique et son impact social. On sait qu'aujourd'hui, l'avion est fortement, a un impact carbone extrêmement fort, et pourtant qu'il est emprunté par une part très infime de la population. Et donc oui, le secteur aérien comme d'autres doit être questionné, et il faut aujourd'hui concilier l'innovation. On parle beaucoup d'avions verts, etc. Mais tous les rapports disent, en particulier celui du Shift Project, pouvoir voler en 2050, qui est très intéressant, tous les rapports disent que l'innovation seule ne suffira pas et qu'il faut concilier innovation technologique et sobriété des usages, notamment en réduisant les usages dits non essentiels, les transports aériens intérieurs par exemple, et cela dépend aussi d'une politique nationale volontariste de soutien au ferroviaire.
Dans Bordeaux-Toulouse, juste une toute petite question, une ligne à grande vitesse qui serait a priori faite pour éviter de prendre l'avion pour aller à Toulouse, vous avez pris position, pas vous, mais Pierre Urmic et Yannick Jadot, en considérant que c'était pas utile et qu'il y avait déjà ce qu'il fallait. Juste.
Alors, en deux mots, ce même argumentaire du potentiel report modal de l'avion vers le train avait été utilisé pour la ligne Bordeaux-Paris, lorsque la LGV Paris-Bordeaux avait été construite. Aujourd'hui, la ligne aérienne Bordeaux-Paris a été conservée contre les engagements qui avaient été pris, et de fait, il n'y a aucun encouragement qui accompagne la construction de cette nouvelle ligne pour le report modal. Et aujourd'hui, ce dont nous avons besoin à l'échelle des territoires, c'est des trains du quotidien. Enfin, c'est ça qui constitue la majeure partie des efforts à fournir sur l'impact carbone des mobilités. Et donc, plutôt effectivement que de créer une nouvelle ligne LGV qui relie les métropoles entre elles, qui font que les villes moyennes voient les trains passer, les trains qui ne s'arrêtent plus, nous préférons que les moyens soient affectés à la rénovation des lignes existantes pour qu'elles gagnent en performance et à la réouverture de lignes du train du quotidien pour répondre aux besoins quotidiens des habitantes et des habitants.
Éric Fournier, à Chamonix, vous êtes donc en première ligne sur les effets du changement climatique. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut complètement revoir votre modèle. Est-ce que, par exemple, la station de ski, qui semble quand même un modèle touristique hérité des Trente Glorieuses, est quelque chose qu'il nous faudra abandonner ? Et est-ce que, surtout, les villes comme Chamonix sont prêtes à ça ?
Alors, deux choses. D'abord, les stations de ski les abandonnées, ça veut dire qu'il n'y a plus de neige. Pour le moment,
Quelques décennies, vous disiez.
Et puis pour le moment, surtout, si vous regardez les modèles climatiques qui nous sont annoncés, on ne dit pas qu'il n'y a plus de neige. Je vais vous dire même, de temps en temps, je suis même un petit peu inquiet quand je vois la répartition des précipitations qui nous est annoncée tout au long de l'année, avec au contraire des excédents de neige qu'on risque d'avoir sur certains secteurs. Ce qui pose problème, c'est le nombre de jours de fusion, de jours chauds. Et c'est-à-dire que la neige fond plus vite. Mais donc, en tout état de cause, un nombre, en tout cas, moi j'ai la chance d'être maire d'une station qui est quand même plutôt en altitude, je vais vous dire, j'ai pas trop de soucis de ce côté-là. Après, les modèles sur un certain nombre de stations plus basses, effectivement, c'est inquiétant. Je voudrais juste redire un mot sur ce que vous avez dit, Mme Sacré, qui est également sur l'écologie positive, ou en tout cas sur la punitive. Oui. Moi, j'ai dit positive, c'est un lapsus. Parce que je pense qu'effectivement, il faut absolument qu'on aille vers un modèle qui garde la base, qui garde le côté social en lien avec cette écologie. C'est ce qui a été raté un certain nombre de fois, y compris avec les gilets jaunes. Et il faut qu'une fiscalité soit adaptée. Moi, je prends deux exemples. À Chamonix, moi, j'exonère de 50% ma taxe foncière pour les gens qui font des rénovations. C'est basique, mais ça marche. On fait une tarification, enfin moi j'appelle ça même de la gratification incitative, qu'on va mettre en place sur nos déchets. Vous faites moins de déchets, vous payez moins. C'est aussi comme ça qu'il faut, et c'est là où on a besoin aussi que l'État nous regarde avec un
plus,
petit peu
plus. C'est du plus,
pas du moins. C'est du plus. Celui qui est bon, celui qui est vertueux, il doit être récompensé, il ne doit pas être pénalisé, et surtout le petit, parce que lui il a moins de moyens.
Allez, une dernière toute petite question de curiosité, reste une minute d'émission. Est-ce que vous êtes harcelé par les candidats qui cherchent vos parrainages en ce moment à la présidentielle ? Comment ça se passe quand on est maire d'une ville aujourd'hui ?
Oui.
C'est-à-dire, ça se passe comment ?
Alors, de tous horizons, parce que quand on est un petit peu un symbole, effectivement, on reçoit des demandes de parrainage multiples et variées.
De tous horizons ?
Absolument.
Léonard Monconduit,
Oui, je ne parlerai pas de harcèlement, mais c'est plutôt de la considération accordée au maire en ce moment.
C'est parce que c'est la première année.
J'ai été conseillère régionale avant, donc j'ai déjà...
Et c'est bien que ce soit public et non anonyme maintenant, ou c'est un frein pour que certains candidats puissent avoir leur parrainage?
Un gage de transparence, en effet, oui.
Allez, peut-être Verguette pour terminer, et vous?
Non, non, pas trop.
Pas trop?
Non, non, pas trop. Je reçois les courriers classiques. Je m'en fiche un peu, en fait, en réalité.
Bon, en tout cas, nous, on s'en fiche pas de vos propos du jour. C'était passionnant. Merci beaucoup de nous avoir permis d'évoquer la question de l'environnement à échelle de citoyens, à l'échelle de territoire. Le maire de Chamonix était avec nous, Éric Fournier. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et Léonore Monconduit, maire de Poitiers. Et Patrice Verguette, maire de Dunkerque. Merci Nathalie. Merci Claire et merci Karine. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Question Politique.